Bonjour à chacun, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Nous allons continuer ce que nous avons vu les fois d'avant, c'est-à-dire les maintenant qui sont cachés dans la lettre aux Colossiens, et en particulier le dernier maintenant, le troisième dont il est question. Mais le premier maintenant nous parlait de la croix. Maintenant que nous sommes réconciliés, nous devons rendre grâce. Deuxième, nous parler de la parole. Maintenant que le mystère est révélé en Christ, nous devons rejeter les fausses doctrines. Et c'est ce que nous avons vu la fois dernière, si vous vous souvenez bien. Mais je résume rapidement. Maintenant, le troisième que nous voulons voir, il se trouve dans ce verset premier, dans ces versets que nous allons lire plutôt. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Vous avez remarqué ce maintenant qui était caché là ? Mais maintenant, renoncez. Maintenant que nous sommes ressuscités en Christ, nous devons renoncer à ce qui est terrestre. Voilà ce qui est caché dans ce passage et ce que nous allons étudier cet après-midi. Mais avant de pouvoir dire « maintenant que nous sommes ressuscités », il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie par rapport à notre vie passée. Il y a un avant ce maintenant. Avant, nous étions, comme nous l'avons lu, dans une vie qui était marquée par le péché. Nous étions aussi des fils de la rébellion. Et le résultat logique de ces choses, c'est que nous étions sous la colère de Dieu. Mais, en Christ, par la foi, nous sommes ressuscités. Mais pour qu'il y ait une résurrection, il faut d'abord qu'il y ait la mort. Vous êtes d'accord ? J'invente rien. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je dis. Mais combien on a besoin de réaliser ces choses pour que nous puissions réaliser notre résurrection en Christ ? Quand l'apôtre Paul dit ces choses, il ne dit pas « il va falloir que vous ressuscitiez ». Il dit « vous êtes ressuscité déjà ». Mais pour bien réaliser ces choses, il faut que vous réalisiez aussi que vous êtes aussi déjà mort. Et des fois, c'est là où on a plus de mal. Réaliser qu'on est mort en Christ, qu'il y a des choses dans nos vies qu'on doit laisser tomber, qu'on doit abandonner, parce que ça ne fait plus partie de notre vie. Quand on s'est repenti, quand nous avons cru que Jésus était mort sur la croix, on a cru que c'était chacun pour notre péché qu'il est mort sur la croix. Et on a compris que quand il est mort sur la croix, c'est comme si on était mort en même temps avec lui. C'est ça la foi. C'est ça la repentance, la conversion, c'est de réaliser tout ce programme. Mais le même esprit qui a ressuscité Christ, il est en nous, nous dit la parole. Ce même esprit qui a ressuscité Christ est en nous. Et quand on voit cette épître, on se rend compte que Paul, il écrit à des chrétiens qui sont déjà affermis dans la foi. Et on se rend compte qu'il les met en garde contre le péché qui pourrait les tenter. Parce que souvent on entend des doctrines un peu bizarres qui nous disent que du moment que vous êtes sauvés, c'est le principal, il faut être sauvé, mais après le reste, c'est pas grave. Oh, si vous péchez, bon, c'est pas important. On voit bien que l'apôtre Paul, même si c'est des personnes qui sont aguerries dans la foi, il leur dit, mais attention, prenez garde que votre vie corresponde à votre foi. Il n'y a rien de pire qu'une foi qui n'est pas authentique, une foi qui n'est que du bout des lèvres. Le Seigneur veut que cette foi-là, elle puisse se manifester de manière tellement pratique, et voilà pourquoi il leur dit ces choses. Et je prends un exemple tout simple, mais chacun d'entre nous, on a connu ce moment où peut-être on a vécu dans le mensonge, où on disait des mensonges avant de se convertir, Et quand on le faisait, ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Mais le jour où on s'est converti, et que peut-être on a été tenté de redire un mensonge, et qu'on l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose dans nous là, une petite voix qui nous a murmuré, ce que tu as fait, c'est pas bien. Avant on le faisait, ça ne nous dérangeait pas. Notre conscience, au début elle nous disait quelque chose, et puis à force de la taper pour qu'elle se taise, elle ne nous disait plus rien. Mais quand on est au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est attristé dans notre cœur, quand on est dans le mensonge, il communique cette tristesse à notre conscience, et on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, il y a la paix de Dieu qui est totalement absente de notre vie, et on veut absolument retrouver ces choses-là. Vous êtes d'accord? Je ne décris pas non plus quelque chose que j'ai inventé. C'est des choses qu'on vit quand on est au Seigneur. Paul ne dit pas, vous êtes ressuscité, donc vous ne pouvez plus pécher. Vous êtes maintenant parfait. Ce n'est pas ça qu'il raconte. Au contraire, il leur dit, vous êtes ressuscité en Christ, mais maintenant il faut que vous vous comportiez comme des personnes qui manifestent la vie de résurrection dans leur vie. Et il leur dit plutôt, pourquoi, si vous êtes ressuscité en Christ, est-ce que vous marchez toujours sous l'inspiration de votre ancienne vie? Pourquoi vous marchez toujours sous l'inspiration du vieil homme? Marchez dans la sainteté, c'est ça qu'il leur demande. Je pensais à cet exemple d'un mendiant. Imaginez un mendiant qui est adopté par un roi. Vous voyez tout de suite de ce que je veux dire. Il accueille le roi dans son palais, il met tout à sa disposition, une belle chambre dans son palais, il accueille à sa table pour qu'il puisse manger, il lui donne de beaux vêtements précieux, fins et délicats, tout ce que vous voulez. Et puis, malgré tout ça, le prince, le nouveau prince, se promène dans la rue, et puis il voit la poubelle d'un restaurant qu'il avait l'habitude d'aller fouiller avant pour trouver à grignoter. Et malgré tout ce qu'il a dans le palais, il retourne et il va dans la poubelle et il reprend ses habitudes d'avant. Et imaginez un instant que ce nouveau prince, il a un serviteur qui a un peu de sagesse et qui lui dit « Mais prince, pourquoi est-ce que vous salissez vos habits? Pourquoi vous abaissez-vous à chercher à manger des restes alors qu'au palais, il y a des mets gras et succulents qui vous attendent? Cela n'est pas digne de votre position. » Vous avez vu le parallèle tout de suite? C'est que maintenant que nous avons été adoptés par Jésus-Christ, par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu, notre position, elle a évolué. C'est vrai qu'on ne le mérite pas, mais c'est ça la grâce. Notre position a évolué. Nous ne sommes plus des enfants d'ici-bas, mais nous sommes des personnes qui appartiennent au royaume d'en haut. Voilà pourquoi il est dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, les choses qui correspondent à la position que vous occupez maintenant, qui correspondent à ces vêtements blancs que vous portez maintenant, spirituellement parlant. Mais bien que moi, ils sont noirs. Mais ce n'est pas ça que je parle. C'est les vêtements blancs qui sont dans notre cœur. Notre cœur lavé par le sang de Jésus-Christ. Mais parce que je suis ressuscité avec Christ, j'ai besoin de renoncer à certaines choses. La résurrection avec Christ, ça implique le renoncement. Voilà le maintenant que je voudrais vous partager cet après-midi. Quand on a étudié la semaine dernière les fausses doctrines, ce sont des choses qui proviennent de l'extérieur, que les gens veulent nous faire croire, que les gens nous disent, et qui voudraient nous tromper par toutes sortes de raisonnements. Et ces choses voudraient rentrer en nous et prendre leur place. Ce qu'il faut faire, on avait dit, c'était rejeter ces choses. On n'en veut pas. Mais il y a aussi les choses qui sont intérieures à notre cœur et notre nature, et qui voudraient sortir, s'extérioriser. Et à ces choses-là, il faut renoncer. C'est exactement ce qu'on est en train de voir cet après-midi. Il y a des choses mauvaises. Là. Jésus a dit, c'est du corps de l'homme que viennent toutes sortes de... toutes les mauvaises choses, les meurtres, les adultères, etc. C'est ce qui sort du cœur de l'homme, qui souille l'homme. D'un côté, on voit que le monde nous dit, mais surtout ne renoncez à rien. Quand on parle de renoncement de nos jours, on trouve que c'est un mot horrible dans notre société. Ah non, il ne faut pas renoncer. Il faut assouvir tous nos désirs. Il faut le faire vite et rapidement. Et on nous dit que la liberté, c'est de faire tout ce qu'on a envie de faire. Vous avez remarqué ça? C'est la définition qu'on donne à la liberté. Tant pis si ça blesse les gens, tant pis si ça choque, tant pis si ça conduit à la violence dans certains pays parce qu'on a abusé de la liberté. Le monde nous dit, non, non, il ne faut pas renoncer, surtout pas. Ne renoncez à rien, faites-vous plaisir. Pourtant, quand on y réfléchit un temps soit peu, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait de manière naturelle qui sont des renoncements. Par exemple, qui c'est qui aime aller chez le dentiste? qui a sa carte de fidélité chez le dentiste tellement il aime y aller souvent et qu'il a même droit à une consultation gratuite. Je crois qu'il n'y a personne qui est dans ce cas. Mais parce que des fois, on a en souffrance nos dents qui nous font souffrir, à un moment donné, on se dit, mais j'aime pas aller chez le dentiste, mais je renonce à ce sentiment de peur et j'y vais quand même parce que je sais que ça va me faire du bien. On est d'accord ? On est obligé de renoncer à ce moment-là. Un autre exemple, il y a pour le dessert, il vous reste 2 yaourts. Et puis, il y a 2 enfants qui sont là et vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez renoncer à manger les yaourts ? Normalement, à part Jonathan qui aime bien manger. Non, je l'embête. On est d'accord, c'est des choses qu'on fait naturellement parce qu'on sait que ça va faire plaisir. On renonce naturellement. Et même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il vit ces choses-là. Mais après, on est capable de dire non, le renoncement, c'est pas bon, il faut arrêter. Parce que, d'un autre côté, on a entendu des gens qui sont tellement dans une religiosité, dans un mysticisme, dans un légalisme absolu, ils disent non, il faut renoncer à tout. Tout est interdit. Le chrétien, il ne peut profiter de rien. Et ça encore, c'est une fausse doctrine qu'il faut rejeter. Bon, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Je vous laisse le soin de revenir à ces choses. En tout cas, la Bible, elle est équilibrée parce qu'elle nous dit il ne faut renoncer qu'à ce qui est terrestre, qu'aux choses d'en bas. Il ne faut renoncer à cela. Mais c'est important de le faire. Et les conseils de l'apôtre Paul, ils sont bien imagés dans les passages que nous avons lus. Il y a 3 verbes qui sont donnés. Il y a le verbe faire mourir, l'expression faire mourir. Il y a l'expression de renoncer, donc, et il y a l'expression de se dépouiller. Vous avez remarqué ces choses ? Faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre, au verset 5, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites mourir. Littéralement, c'est mettez à mort ces choses-là. Mettez à mort. Quand il est question de la débauche, c'est l'adultère, c'est la fornication. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai la pensée même de l'adultère qui va monter dans mon cœur, je dois la faire mourir. Dès l'instant où j'ai telle mauvaise pensée qui germe au fond de mon cœur, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois renoncer à cette pensée. Je dois la mettre à mort. Je me souviens qu'il y a quelque temps, mon épouse partait en vacances chez ses parents et je devais m'occuper d'arroser les plantes. Et je me souviens que c'est pas mon grand loisir d'arroser les plantes. C'est pas ma priorité dans la vie, j'avoue. Il y en a qui aiment beaucoup ça, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Et c'est quelque chose qui m'a totalement échappé. J'ai oublié d'arroser les plantes une fois même dans la semaine. Il suffisait d'une fois, mais je l'ai pas fait. Le résultat, c'est que quand elle est revenue, la plante, elle faisait une drôle de tête, bizarrement. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire avec les choses qui sont terrestres. La plante, elle a besoin d'eau, et si on ne lui donne pas, elle meurt. Mais la mauvaise pensée, si on ne lui donne pas ce qu'elle a besoin, elle va mourir aussi. Si on ne l'alimente pas, elle va mourir. C'est exactement ce qu'il faut faire, mettre à mort dans notre vie, c'est mettre à mort toutes ces choses qui sont terrestres, afin que nous puissions marcher dans cette vie d'en haut. Renoncer, c'est littéralement jeter au loin. C'est-à-dire, je prends la colère, renoncer à la colère, renoncer à l'animosité, renoncer à la calomnie. Je prends ça et je la jette au loin. Je n'en veux pas, je m'en sépare. Et si c'est quelque chose qui viendrait arriver dans mon cœur, si je sens que la colère est en train de monter, eh bien, c'est moi qui m'en vais peut-être dans une situation. Si je vois qu'une discussion s'envenime, je m'en vais, je vais respirer, je vais me promener, peu importe. Aller au loin, jeter au loin, faire quelque chose de manière physique. Souvent, on voit des gens qui prient pour que Dieu les exauce, les délivre de telle ou telle chose. Je me souvenais d'une personne qui disait « Ah, moi, j'ai le démon de l'adultère. » C'est-à-dire que c'est le démon qui m'oblige à commettre l'adultère. Mais quand je lis la parole, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, ou c'est ça, l'adultère. » C'est à moi de dire non à ces choses-là. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour moi. D'ailleurs, quand on regarde ces 3 verbes, faites mourir, rejetez, jetez au loin, dépouillez-vous. Est-ce qu'on a l'impression que c'est Dieu qui va le faire pour nous, ces choses ? Je veux dire, quand on veut sortir notre veste, alors, ça n'arrive pas par hasard. C'est qu'on a décidé à un moment donné de sortir la veste et qu'on va la mettre dans l'armoire, mais on le décide et on le fait. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous demande. Vous étant dépouillé de ce vieil homme qui ne correspond pas à notre position actuelle, ce vieil homme qui correspond à notre ancienne vie, le Seigneur nous demande de nous en dépouiller. comme un vêtement sale et usé. Si je vois que ma veste est pleine de boue et toute déchirée et toute horrible, est-ce que je vais rester me promener avec ça? Je vais la sortir. Je vais m'en dépouiller. Le verbe dépouiller, c'est exactement ça, se dévêtir. Malheureusement, quand on explique ces choses, on entend aussi souvent des gens qui disent « Je veux renoncer. Je veux arriver à cette vie merveilleuse, cette vie de résurrection. Mais je n'arrive pas à renoncer. Il y a telle ou telle chose qui est dans ma vie qui prend la place. Il y a telle ou telle chose que je voudrais abandonner mais que je n'arrive pas à abandonner. » Nous avons besoin dans ces cas-là de revenir à la résurrection. Je vous l'ai dit, la résurrection avec Christ, ça implique le renoncement. C'est une loi spirituelle, c'est-à-dire que si je suis vraiment ressuscité avec Christ, que je le comprends, que je le réalise, que je mets toute ma foi, alors logiquement, il y a des choses auxquelles je vais devoir renoncer. Ça va se faire tout seul. C'est pas quelqu'un qui va me forcer, c'est pas le pasteur qui va m'appeler. Ah, ça y est, tu as renoncé à tel ou tel péché ? Non, non. C'est naturellement le Saint-Esprit va me guider et va m'aider. C'est exactement pareil que si vous mettez. Si vous approchez d'un glaçon une torche de feu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de piège. Ça fond. Le feu, il fait fondre l'eau, le glaçon. Il y a un transfert de chaleur, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, quand on prend un glaçon plutôt et on l'approche de la cheminée, qu'est-ce qui se passe? Il fond. C'est une loi, c'est comme ça. Que je sois d'accord ou pas, ça se passe. Maintenant, si ma vie, je l'approche de la présence de Dieu, de la sainte présence de Dieu, que je laisse l'action du Saint-Esprit se faire dans mon cœur, est-ce que vous pensez que le glaçon de mon péché qui reste là dans mon cœur, il ne va pas fondre dans la présence de Dieu? Je crois que s'il ne fond pas ce glaçon, c'est que je dois me poser la question, est-ce que je ne suis pas trop loin de la présence de Dieu? Est-ce que je ne suis pas trop loin de l'action du Saint-Esprit dans ma vie? Vous comprenez? C'est une loi spirituelle, comme les lois physiques, il y a des lois spirituelles qui sont là et qui font que si je n'arrive pas à renoncer à quelque chose, c'est que peut-être moi-même, je ne suis pas assez sérieux avec les choses de Dieu, je ne suis pas assez à l'écoute, je ne suis pas assez ouvert, je n'ai pas assez ouvert mon cœur à la présence du Saint-Esprit et il n'y a rien qui se passe. Je n'arrive pas à renoncer. Eh bien, si c'est votre cas, peut-être cet après-midi, s'il y a un péché qui est là, qui vous tient lié, on a chanté libre de nos chaînes, mais il y a peut-être quelqu'un qui est encore dans les chaînes. Je vous invite à regarder à la croix, avec sérieux attention. Parce que si nous pouvons être ressuscités avec Christ, c'est parce que Jésus est mort à la croix. C'est parce que nous sommes morts avec lui. Et est-ce que nous pouvons regarder, considérer la croix avec attention et regarder que Dieu a fait retomber sur Jésus l'iniquité de qui ? De nous tous. L'iniquité de nous tous, ça veut dire tous nos péchés englobés. Même ce péché qu'on pense qu'il est trop fort pour nous. Est-ce que vous pouvez regarder la croix et dire « Jésus, il est mort pour l'iniquité de nous tous » sauf pour moi le péché qui me tient lié aujourd'hui. Qui pourrait regarder la croix et dire ça? Qui pourrait regarder le Seigneur et lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, mais il manque encore ça. Est-ce que Jésus aurait pu dire, tout est accompli? Est-ce que Jésus aurait pu dire au Père qu'il a parfaitement rempli sa mission, mais qu'il resterait quand même quelque chose qui a trop de puissance dans nos vies, quelque chose envers lequel il ne peut pas nous aider? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si c'est le cas, c'est qu'on se fourvoie, qu'on a un mauvais regard sur ce que l'œuvre de Jésus à la croix, elle est parfaite, elle est merveilleuse, elle est puissante. Le Saint-Esprit, il a ressuscité Christ pour attester que Jésus-Christ avait fait le sacrifice parfait. Et maintenant, cet Esprit qui a ressuscité Christ, il est en nous et il nous permet de remporter la victoire sur tout péché. Quel que soit le péché, quelle que soit la montagne que nous pouvons rencontrer, le Seigneur est capable de la transporter, de la jeter dans la mer. Tout ça, ça repose simplement sur une chose. Sur notre foi et notre foi dans l'œuvre de la croix et dans cette perfection. Si je veux remporter la victoire sur ce péché que j'arrive pas à renoncer, j'ai besoin de revenir à la croix, de m'agenouiller de dire « Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me rends compte que par rapport à ce domaine-là dans ma vie, je n'ai pas été assez loin, je n'ai pas laissé ton Saint-Esprit me sonder assez profondément, je n'ai pas laissé ta parole me montrer ce qui n'allait pas. Et Seigneur, j'étais trop loin de toi présent, j'étais trop léger, mais j'ai besoin que tu fasses ton œuvre maintenant. » Si vous avez un problème de ce style, cherchez. Recherchez la présence de Dieu. Recherchez cette présence, cette sainte présence. Ayez soif de l'action du Saint-Esprit dans votre vie et vous verrez que vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, mais il est tout puissant. Et sa parole communique l'Esprit et communique la vie. La résurrection, ça implique de renoncer. La résurrection, ça implique aussi de se revêtir de l'homme nouveau. Regardez ce qu'il est dit au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Il y a un dépouillement, mais en même temps, il y a un revêtement. Au verset 10, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Au verset 12, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien, de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Il y a un vêtement qu'on doit laisser de côté, auquel on doit renoncer, duquel on doit se dépouiller, mais il y a un vêtement nouveau qu'on doit aussi porter. Vous avez vu, quand on parle de l'ancien vêtement, il est question de... Il y a 11 choses qu'il faut abandonner. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Et toutes les choses semblables, on comprend que c'est un package entier, toute l'ancienne nature. Il y a 11 choses qui sont citées par l'apôtre Paul, et là, il y a 10 choses que l'apôtre Paul nous dit qui sont positives, qui doivent faire partie intégrante de notre vie. Ce ne sont pas des vertus, encore une fois, qui nous tombent dessus. Quand vous vous habillez le matin, vous ne prenez pas tous les habits dans votre armoire, vous ne les jetez pas au ciel, et vous ne dites pas « Seigneur, je veux que tu me revêtes ». Ce n'est pas comme ça que vous le faites, j'espère. Vous prenez le vêtement que vous voulez porter, que vous trouvez beau, et vous êtes magnifique, c'est très bien, et vous le mettez parce que vous l'avez décidé. Se revêtir, c'est exactement pareil. C'est quelque chose qui fait partie de notre volonté, c'est quelque chose que nous désirons. Je choisis de porter ces vertus, ces qualités dans mon cœur. Je choisis d'avoir de la compassion. Je choisis, en me levant le matin, de dire « je vais avoir de la compassion si je vois quelqu'un qui est dans le besoin ». Je choisis d'ouvrir mon cœur à cette personne. Je choisis de ne pas fermer mon cœur, je choisis d'avoir de la compassion. Je choisis pas d'être indifférent, je choisis d'être près de la personne pour pouvoir l'aider si je le peux. Je choisis de porter la bonté. Je me lève le matin en disant « à qui est-ce que je vais pouvoir faire du bien aujourd'hui ?» Est-ce que vous vous levez avec des désirs comme ça ? Est-ce que peut-être dans votre temps de prière, vous dites « Seigneur, tu vois, mets une personne sur ma route à qui je peux transmettre ta bonté. » Ça vous est déjà arrivé de prier comme ça ? Moi, ça m'est arrivé souvent. Et le Seigneur, souvent, il exauce. Parce qu'il se plaît. Il se plaît à la miséricorde, il se plaît à la bonté. L'humilité. J'entendais une prédication, un pasteur qui disait « Nous devons faire tous nos efforts pour rester debout, pas pour devenir grand. » Il y a une différence. J'ai bien aimé cette expression. Doit faire nos efforts pour rester debout, bien sûr, mais toujours dans l'humilité. Notre but, ce n'est pas d'être debout pour dire, tu vois, moi je suis debout, toi tu es par terre, je suis meilleur que toi. Notre but, c'est de dire, je suis debout et si je peux t'aider, je vais le faire. Et si je peux aider quelqu'un qui est dans la perdition à passer des ténèbres à la lumière, je vais le faire parce que je suis debout. L'humilité, combien nous en avons besoin. La Bible nous dit de nous laisser attirer par ce qui est humble. Souvent, on voit les choses qui attirent notre regard, des choses spirituelles avec des néons comme ça là qui clignotent dans tous les côtés, qui se paraissent tellement belles, alors que le Seigneur nous demande de faire une petite chose. Un petit coup de fil peut-être, une petite visite, mais qui peut faire tellement de bien. Une petite parole, mais qui peut être profondément inspirée par la grâce de Dieu et communiquer quelque chose communiquer la paix. Je choisis de porter la douceur plutôt que l'énervement ou la colère. On est dans un monde où quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas vite, quand le chauffeur de devant il conduit mal, qu'est-ce qu'on fait? On répond avec douceur, c'est ça? Ou on appuie très rapidement sur le klaxon. Vous n'êtes jamais piégé, tenté même de vous énerver au volant? Allez, qui est vraiment français dans la salle là? Qui... Dites-moi oui quand même, parce que c'est quelque chose de français, ça, profondément. Je me souviens d'un pasteur qui était anglais, justement, il disait mais qu'il était choqué de voir les Français, comment ils prenaient à cœur la conduite tellement qu'ils s'énervaient. Et c'est vrai, quel témoignage on peut donner? Souvent, moi, j'ai été repris, en me rendant compte que parce que quelqu'un fait une queue de poisson, ben, c'est sûr, c'est pas gentil. Mais pourquoi je vais m'énerver? Qu'est-ce que ça va changer? Rien. Par contre, la douceur. Un comportement plein de douceur. La patience. Par qui vous priez le Seigneur, vous dites, Seigneur, aujourd'hui, montre-moi qui tu vas utiliser pour m'éprouver dans ma patience. Et top, il y a quelqu'un qui vient, qui vous parle, qui c'est dur à comprendre, c'est dur à supporter tout ce qu'elle vous dit. Et vous dites, ah, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. C'est comme ça que ça se passe à peu près, hein. Bon, j'idéalise un peu, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Vous pensez pas? Ah oui, il y a une personne qui me porte sur le système, comme on dit. Mais Seigneur, tu m'éprouves. Tu éprouves ma patience. Seigneur, tu me formes. Je suis comme un bloc de granit que des fois, il y a besoin de certains coups. Le tailleur a besoin de taper un petit peu pour que l'œuvre d'art puisse surgir. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez lu avec moi au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. » Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut que je supporte ce frère, hein? C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'elle veut dire là. « Supportez-vous », ça veut dire « soutenez-vous ». Porter au-dessus, littéralement c'est ça. Soutenir, c'est-à-dire je me mets en dessous pour tenir mon frère. Peut-être qu'il est fatigué, qu'il est découragé, mais je le supporte, je le prends avec moi, je le prends par l'épaule et on continue d'avancer. Peut-être l'épreuve l'a écrasé, il était à terre, mais moi je le prends avec moi et je l'aide à continuer à marcher. C'est ça, supportez-vous les uns les autres. Et s'il y avait lieu de se plaindre l'un de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous, être toujours prêt à demander pardon. Et au verset 14, il est dit... Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ça veut dire que c'est le vêtement qui est par-dessus tous les autres. C'est la force qui tient ensemble toutes les autres vertus et les rend parfaites. S'il n'y a pas d'amour, tout ce que je fais avant, c'est du légalisme. Ah, ben je suis bon parce qu'on m'a demandé d'être bon. Ah, ben je pardonne parce qu'il faut pardonner. Non, non, je pardonne parce que j'ai été rempli de l'amour de Dieu. J'ai compris que Dieu m'a pardonné à moi et je ne peux pas laisser un mur, un obstacle se mettre dans ma communion avec Dieu. Alors je suis obligé, parce que j'aime Dieu, logiquement je commence à aimer mon frère et je suis obligé de lui accorder mon pardon. C'est comme ça que ça doit se passer. Je parlais hier avec quelqu'un qui me disait... Ah, à un moment donné dans sa vie, elle avait la paix de Dieu, dans une situation particulière. Parce qu'on a lu que la paix de Dieu règne au milieu de vous. Et cette personne, elle me disait, ah, j'étais dans une situation et j'avais la paix. Alors, je croyais que ça venait de Dieu. Et puis, je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est bien d'avoir la paix. Mais est-ce que c'était la paix de Dieu? Là, il est question dans verset 15, la paix de Christ. Des fois, on trouve des personnes, même dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont en paix pendant un certain temps. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas la paix de Christ, ça. Et cette personne, parce qu'elle a ressenti la paix à ce moment-là, je lui ai dit, mais est-ce que, quand vous ressentiez la paix, est-ce que vous obéissiez à la parole, à ce que le Seigneur vous demandait de faire? Est-ce que vous marchiez dans la sainteté? Ah ben non. Je lui ai dit, donc la paix que vous aviez, ce n'était pas la paix de Dieu. La preuve en est, c'est qu'il y a eu de mauvais fruits. Il y a eu des situations qui se sont empirées à cause de cela. Et souvent, on fait On ne fait pas la différence entre la paix qu'on peut ressentir à un moment donné dans notre situation et la paix de Christ qui nous, vient nous attester que nous sommes dans la présence de Dieu, qui vient nous attester que nous sommes touchés par la grâce de Dieu, que nous sommes en approbation, en accord avec le Seigneur. Cette paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence. Oui, que cette paix règne dans nos cœurs. Et vous avez vu que l'apôtre Paul, dans ses vertus, il termine avec ce petit verset, « Soyez reconnaissants ». Quand on lit Colossiens, on se rend compte qu'à chaque, dans les quatre chapitres, à chaque fois, il est question d'être reconnaissant. Quand je suis réconcilié avec Dieu, c'est merveilleux. Quand je regarde à la croix, il faut que je sois reconnaissant, il faut que je rende grâce. Quand je suis enraciné dans la parole et que je peux rejeter les mauvaises doctrines, je dois aussi rendre grâce. Mais quand je vis cette vie de résurrection, quand je cherche les choses d'en haut et que je suis capable de renoncer à ces choses d'ici-bas, qu'est-ce que je dois faire aussi ? Rendre grâce, porter ce vêtement de louange. Est-ce que, frères et sœurs, nous aimons louer le Seigneur ? Est-ce que, frères et sœurs, nous avons pris cette bonne habitude, jour après jour, de dire « Seigneur, je veux te louer ». Que ça aille ou que ça n'aille pas. Je pensais à l'exemple de ce pasteur, c'était un ancien agent de police. Et il disait, il racontait son expérience quand il était policier. Il disait que les gens le traitaient différemment quand il était en uniforme que quand il était en civil. Le badge et l'uniforme lui faisaient gagner du respect et de l'autorité instantanément. C'est-à-dire que les gens lui disaient tout de suite « monsieur », ils étaient tout attentifs. Quand il disait quelque chose, ils le croyaient. Quand il donnait un ordre, ils respectaient son ordre rapidement, ils obéissaient. Et le monsieur, il conclut, je suppose que les vêtements ont fait la différence. Et en uniforme, j'agis avec plus de confiance. Et dans Colossiens, chapitre 3, c'est exactement ce qui se passe. L'apôtre Paul nous parle de l'uniforme du chrétien, de ce vêtement que nous devons porter. Et vous savez que la plupart des gens, ceux à qui vous allez témoigner pendant cette semaine, ils vont réagir d'une façon différente si vous portez ce vêtement. Si vous portez ce vêtement de bonté, de douceur, de pardon, de grâce, si vous portez ce vêtement de paix, d'amour, les gens ne vont pas avoir la même attitude que si vous vivez, si vous portez le vêtement du vieil homme. On est d'accord ? Ça paraît évident. Mais ce que nous portons fait la différence. Alors la question que je vous pose, c'est quel vêtement portez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes dépouillé du vieil homme ? Est-ce que vous recherchez les choses d'en bas ou les choses d'en haut ? Je voudrais qu'on puisse incliner nos fronts, fermer les yeux et prendre un temps devant le Seigneur encore, à laisser son esprit sonder nos cœurs. La Bible nous dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Peut-être quelqu'un cet après-midi ne peut pas dire cela. Cela est vrai pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui marchent dans la vérité. Cela est vrai pour tous ceux qui ont confessé leurs péchés et qui l'ont abandonné. Mais quelqu'un cet après-midi peut dire « Mais moi, je ne suis pas ressuscité. Moi, je suis encore esclave de cette vie passée. Je suis encore esclave. Et cette vie qui devrait être passée, qui est passée pour tant de chrétiens, ben, c'est ma vie d'aujourd'hui à moi. » Le Seigneur vous appelle à venir à la croix. Le Seigneur vous demande de vous réconcilier avec lui. Soyez réconciliés. Et nous-mêmes, parce que nous connaissons quelle grâce cela est, quel amour le Seigneur nous manifeste, nous voulons vous dire, oui, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec le Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne résistez pas. Mais le Seigneur a dit, si vous êtes ressuscités à vous qui êtes chrétiens, alors marchez comme des enfants de lumière. Cherchez les choses d'en haut. Tellement de choses peuvent vous détourner. Tellement de choses peuvent faire en sorte que vous alliez perdre du temps. Cherchez les choses d'en haut. Renoncez à ce qui n'est pas digne de votre position de chrétien. Renoncez à ce qui n'est pas digne de votre héritage. Si vous voulez chercher les joies dans ce monde, vous serez déçu et peut-être que vous blesserez même d'autres personnes. Mais si vous cherchez la joie parfaite du Seigneur, vous ne serez jamais déçus. Quel est le vêtement que vous portez cet après-midi? Est-ce que c'est un vêtement de colère? Est-ce que c'est un vêtement de débauche? Le Seigneur vous dit, faites mourir ces choses, dépouillez-vous de cela, renoncez à ces choses. N'attendez pas que le Seigneur vous le fasse pour vous, il vous l'ordonne de le faire. Et revêtez cette vie nouvelle, ce vêtement nouveau. Revêtez cette paix, cet amour, cette grâce. Vous pourrez multiplier les vertus que le Seigneur voudrait qu'on mette. L'apôtre Paul en a donné 10, mais on sait que dans toute la parole, il y en a une multitude qui nous encourage à marcher de progrès en progrès. Mais celui qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. Tout ce que nous pourrions faire sans amour ne servira à rien. Cet après-midi, peut-être quelqu'un a besoin justement de dire « Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. Ce que tu as reproché à l'Église, à cette Église qui manquait d'amour, Seigneur, à l'Église d'Éphèse. Oh, mais c'est mon cas cet après-midi. Parce que je me suis éloigné de toi. Eh bien, les glaçons qui sont dans mon cœur ne peuvent plus fondre. Je n'arrive plus à renoncer à telle ou telle chose. Il y a tel ou tel péché dans ma vie qui prend le dessus parce que je me suis éloigné, parce que mon amour n'est plus aussi passionné pour toi. Le Seigneur vous appelle à vous approcher, à venir tout près de lui, à faire tomber à terre toutes les murailles, tous les faux raisonnements qui voudraient vous empêcher, tous les obstacles qui vous éloigneraient de lui, et à laisser le Saint-Esprit vous approcher de lui. Merci Éternel, parce que dans ces instants, oui, je crois que tu communiques, Seigneur, quelque chose de divin dans les cœurs. Merci parce que tu ne nous as pas laissés sur cette terre sans secours, mais tu nous as donné la vie avec abondance. Tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur. Tu nous as donné cette vie de résurrection. Tu as permis que l'Esprit qui a ressuscité Christ puisse habiter en nous, que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Tu nous as permis, Seigneur, de marcher de victoire en victoire. Tu vois mes frères, tu vois mes sœurs qui sont peut-être dans une défaite par rapport à telle ou telle chose dans leur vie. Seigneur, je crois que cet après-midi, ils peuvent expérimenter de ta part que cet Esprit qui a ressuscité Christ, il est en eux, il leur donne la victoire sur ce péché. Parce que Jésus a porté l'iniquité de nous tous. Il n'y a aucun péché, Seigneur, que tu n'as porté sur la croix. Voilà pourquoi nous croyons et nous déclarons et nous confessons, oui, que tu es capable de remporter la victoire. Dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, cet après-midi, merci de nous aider à vivre ces choses, à expérimenter ta grâce dans nos vies. Merci Éternel, oui, de nous permettre de vivre dans cette vie maintenant où nous allons renoncer à toutes ces choses mauvaises et nous revêtir de cet uniforme que tu as mis devant nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom et surtout pour que des âmes puissent être sauvées, pour que notre témoignage soit efficace, pour que notre parole soit pleine de grâce, assaisonnée de sel, Seigneur. C'est ce que nous te demandons de tout notre cœur. Que ton nom soit béni. Amen.